Le vrai chevalier de Maison Rouge, écrit par Gustave Le Nôtre. Chapitre 1er. Le chevalier de Maison Rouge. Alexandre Dumas n'a peut-être rien écrit de comparable, sous le point de vue du pittoresque et de l'intérêt dramatique, au premier chapitre du chevalier de Maison Rouge. C'est une nuit de printemps de 1703. Paris est gardé par le peuple. Les patrouilles circulent dans les rues. L'une d'elles rencontre une jeune femme, seule, marchant vite, tremblant d'être vue, et l'arrête. L'inconnu ne répond pas aux questions que lui posent les gardes nationaux. Elle ne peut montrer sa carte de sûreté. C'est une suspecte. Tandis qu'on l'entraîne vers le poste voisin, un jeune municipal, élégant et de bonne mine, s'approche et demande la cause du tumulte. La pauvre femme devine en lui un sauveur. « Oh, monsieur, lui dit-elle tout bas, si je vais à la section, je suis perdue. » L'officier est un patriote ardent, connu dans son quartier pour un irréprochable démocrate. Mais il a 25 ans, le cœur tendre et l'esprit chevaleresque. Il se fait le champion de l'inconnu, se porte garant de son civisme, pousse la patrouille dans la boutique d'un marchand de vin, argument sans réplique. Puis, offrant son bras à la jeune femme, il lui propose de la protéger jusqu'à sa demeure. Elle accepte, car elle a eu grand-peur, et les voilà tous deux marchant par les rues désertes. Ils traversent toute la ville. Lui, sensible, galant, presque amoureux déjà. Elle, discrète, réservée, mystérieuse. Quand ils sont ainsi parvenus aux confins du faubourg Saint-Victor, l'inconnu s'arrête. « Monsieur, dit-elle, nous allons nous séparer pour ne plus nous revoir. J'habite à quelques pas d'ici et je puis regagner ma maison sans crainte de mauvaises rencontres. Vous m'avez sauvé la vie. Mais un immense intérêt est attaché à ce que personne ne sache qui je suis. Et je dois vous demander une dernière faveur. Vous allez fermer les yeux, et quoi qu'il vous arrive, me promettre de ne pas les ouvrir avant que je sois éloigné. » Le municipal obéit. Tout à coup, il sent les lèvres de la jeune femme se poser sur les siennes et lui glisser dans un baiser l'anneau d'or qu'elle a détaché de son doigt. Il peut à peine retenir un cri de surprise et de plaisir, mais il reste fidèle à sa promesse. Lorsque quelques instants après, il rouvre les yeux, la rue est déserte. La jeune femme a disparu. Ce froid et rapide scénario ne donne, comme l'on pense, qu'un bien pâle aperçu du récit dramatique et coloré d'Alexandre Dumas. Il a en outre le tort grave de résumer une histoire que tout le monde connaît, car qui n'a pas lu Le Chevalier de Maison Rouge? Mais comme le roman de l'illustre conteur est à la fois le prétexte et la raison d'être de cette étude historique, il nous faut bien en retracer les grandes lignes et en remémorer au lecteur les principaux incidents. Maurice Linde, c'est le héros de l'aventure que nous venons de rappeler. À force de ruses et de recherches, parvient à connaître le nom de celle à laquelle il n'a cessé de rêver. Elle s'appelle Geneviève d'Ixmer. Il réussit à pénétrer chez elle. Bientôt, il devient le familier de la maison. Oh, le singulier ménage que c'est d'Ixmer! Le mari, riche teinturier, très occupé de ses affaires et fort peu de la politique, vit retiré au fond de ses ateliers, passant ses journées avec ses ouvriers et ses nuits dans son laboratoire, négligeant quelque peu sa jeune femme, à qui Maurice vient maintenant rendre visite chaque jour. D'Ixmer est d'ailleurs peu gênant. Il ne se montre guère et vit assez mystérieusement. Non point que la terreur qui pèse sur la France l'impressionne en aucune façon. Il s'en soucie bien, ma foi, mais il emploie des marchandises de contrebande et il est très jaloux de ses secrets de fabrication. Il a pour associé un certain Morand, personnage étrange, savant chimiste, l'esprit toujours perdu dans quelques formules, les mains toujours teintes de pourpre ou de cobalt. Ce Morand inquiète l'amoureux Maurice. Il a un grand air sous ses impénétrables lunettes bleues. Il est instruit, travailleur, causeur agréable. Malgré l'indifférence qu'il affecte, on devine, à d'insaisissables indices, que son influence est grande dans le ménage d'Ixmer. Geneviève l'aimerait-elle? Ce soupçon traverse si douloureusement le cœur de Maurice qu'il prend la résolution de fuir la maison d'Ixmer. Il saisit un prétexte et ne revient pas. Le mari, que la présence de Maurice ne semblait pas offusquer, s'étonne de son absence. Il interroge Geneviève. Elle rougit, elle hésite, elle balbutie. Elle avoue enfin, en femme honnête, qu'il vaut mieux pour son repos que le jeune municipal ne reparaisse plus. Elle se sent prête à l'aimer, elle a peur de lui et d'elle-même. Alors Dixmer se révèle. Dissimulant la rage jalouse qui l'étouffe, il rappelle à sa femme le but que Morand et lui-même poursuivent. « Geneviève, dit-il, nous sommes dans l'époque des grands dévouements. J'ai donné à la reine, notre bienfaitrice, non seulement mon bras, non seulement ma tête, mais encore ma félicité. Je ferai plus que de lui donner ma vie. Je risquerai mon honneur. Mais je vous connais, Geneviève. Vous êtes un digne et noble cœur. Je suis sûre de vous. » Hélas, gémit la pauvre femme, qui peut être sûre des autres quand nul n'est sûr de soi. Il le faut, vous m'entendez? Il faut que ce jeune homme revienne ici, comme par le passé. Il est indispensable que cette maison soit la sienne. C'est à vous de savoir les rappeler et les retenir par tous les moyens. Et voilà comment Maurice Linder reprit à la table d'Edixmer la place qu'un mouvement de dépit amoureux lui avait fait abandonner. Certains jours, Dixmer s'étant absenté pour affaires, Morand dînait en compagnie de Geneviève et de Maurice. En homme que les événements n'intéressent que par leur côté philosophique, il met la conversation sur la reine que Linde voit souvent au temple où ses fonctions l'appellent. « Est-elle bien changée ? » demande-t-il. « Que dit-elle ? Comment supporte-t-elle sa détention ?» « La pauvre femme, soupire Geneviève, je voudrais bien la voir. »« La voir ? Rien n'est plus facile, » reprend Maurice, heureux de satisfaire un caprice de celle qu'il aime. « Venez me rendre visite jeudi au temple. J'y commande la garde pour 24 heures. Je vous placerai sur le passage de la prisonnière au moment de sa promenade. Morand nous servira de chaperon. » Mais Morand ne se décide pas. Il a trop d'occupations. Ce serait une journée perdue. Maurice, dans l'espoir de passer quelques heures avec Geneviève, de traverser Paris à son bras, insiste, supplie, lève toutes les objections, si bien qu'au jour dit, tous trois se dirigent vers le temple où le jeune municipal va prendre son service. En chemin, une bouquetière présente au couple amoureux une gerbe d'œillets que le jeune officier attache à la ceinture de sa compagne. Elle est émue, lui est radieux, Morand les suit d'un air ennuyé et distrait. On arrive au temple. Lorsque les femmes capées descendent au jardin, Marie-Antoinette, étonnée, s'arrête devant la jolie visiteuse et jetant un regard aux œillets, elle ne peut s'empêcher, avec un gros soupir, de murmurer « Ah, les belles fleurs !» Geneviève détache son bouquet et l'offre à la prisonnière. Mais Simon, le savetier que la Révolution a donné comme précepteur au dauphin, Simon fait bonne garde, il a des soupçons, et des soupçons vite justifiés. Le bouquet contenait un billet. Les visiteurs ne sont venus que dans le but de faire évader la reine, Morand n'est autre que le chevalier de Maison Rouge, l'insaisissable conspirateur, le fidèle royaliste sur lequel la police, malgré ses efforts, n'est jamais parvenue à mettre la main. Geneviève et Dixmer sont ses complices. Maurice Lindet a donné aveuglement dans le piège. On sait avec quelle verve, quelle ressource d'invention Dumas conduit cette intrigue. La mystérieuse figure de roman, ce chevalier de Maison Rouge qui aime la reine d'un amour respectueux et muet, et qui s'est voué à sa délivrance, le stoïcisme de Dixmer qui, très épris de la pudique et chaste Geneviève, la force à retenir le patriote dont la présence est nécessaire au complot. Tout cela est compté comme l'auteur des Mousquetaires savait compter. Et ces divers éléments se combinent jusqu'à ce que, la reine morte, Maison Rouge se poignarde au pied de la guillotine. Maurice et Geneviève, condamnés à leur tour, montent ensemble sur l'échafaud et meurent en échange d'un dernier serment d'amour. Tel est le roman célèbre, et tous ceux qui l'ont lu se sont, sans nul doute, en fermant le livre, posé cette question. Qu'y est-il de vrai dans tout cela? Ce qui fait à la fois le charme et le défaut des romans historiques, c'est qu'ils mettent en scène des personnages authentiques et qu'ils les font agir d'une façon purement fantaisiste, de sorte qu'on ne sait plus quelle est la part de l'imagination et quelle est celle de l'histoire. Personne n'ignore, par exemple, qu'en 1793, plusieurs tentatives furent faites pour arracher Marie-Antoinette à sa prison. On connaît moins les noms de ceux qui avaient conçu un si audacieux projet. Et telle est la popularité du roman de Dumas que pour bien des gens, les aventures du chevalier de Maison Rouge synthétisent tous les dévouements qui s'étaient donnés pour but le salut de la reine. Il n'en est rien. Maison Rouge n'est pas un personnage d'imagination. Nous n'avons pas la prétention de faire ici une révélation inédite. Il suffit d'ouvrir un dictionnaire biographique au nom de Rougeville pour reconnaître que, sous le pseudonyme transparent dont il a revêtu son héros, Dumas a raconté, en les amplifiant, les exploits d'un homme qui a bel et bien existé. Ces courtes notices, tout incomplètes et erronées qu'elles soient, vous apprendront même que celui qui eut l'invraisemblable audace de pénétrer à travers mille dangers jusqu'à la reine prisonnière ne laissa pas sa tête dans l'aventure. Échappé par miracle aux policiers du comité de sûreté générale, il vécut jusqu'en 1814. Voilà qui commence à piquer la curiosité. Comment, à une époque où l'on condamne à mort les simples suspects, où l'on entasse dans les prisons des gens soupçonnés seulement d'avoir médit des assignats, où les plus riches financiers, les plus puissants seigneurs, les hommes politiques les plus influents ne parviennent pas à se soustraire à l'échafaud, comment un conspirateur, un aristocrate avéré, un noble se jette dans la mêlée, parvient à se faire ouvrir les portes d'une prison d'État, complote, s'expose, dupe les fonctionnaires, corrompt les geôliers, fait montre de ses sentiments royalistes, va, vient, circule, réunit des complices, se glisse dans le cachot de la reine et réussit, en fin de compte, à disparaître en temps opportun, à se terrer si habilement qu'il sort sain et sauf de la tourmente où tant d'innocents ont laissé la vie. Il y a là une invraisemblance telle que le romancier lui-même n'a pas cru pouvoir la faire accepter et qu'il a préféré, pour n'être point accusé d'écrire un conte à dormir debout, sacrifier son héros en le faisant se suicider pour sortir d'une situation inextricable. Eh bien, le précepte du vieux Boileau est ici applicable. Pour si invraisemblable que la chose paraisse, elle n'en est pas moins absolument vraie. Bougeville, qui fut de tous les royalistes celui qui peut-être se compromit le plus, survécu à la terreur. C'est même cette période de son existence, de 1794 à 1814, qui nous semble présenter le plus d'intérêt. D'abord, elle était restée jusqu'à présent absolument mystérieuse. Hâtons-nous de dire que nous ne sommes parvenus qu'à soulever le voile à demi. Nous marchions sur un terrain si inconnu, si plein de surprises, resté forcément si inexploré, que nous avons laissé dans l'ombre, faute de lumière suffisante, bien des points qu'il eût été utile d'éclairer. L'histoire ressemble à des décors d'opéra, représentant des palais solidement construits, aux robustes assises, aux perspectives nobles et donnant dans toutes leurs parties l'illusion de la vérité. Si l'on voit le décor à l'envers, on s'aperçoit que tout est carton et toile peinte, que le granit et le marbre ne sont que simulés et que le moindre portant, mis de travers, suffirait à détruire le trompe-l'œil. L'histoire, telle qu'on l'a écrite trop longtemps, est semblable, disons-nous, à ces décorations de théâtre, vues de la salle. Tout s'y présente dans un ordre parfait, tout y est logique et bien à sa place, tout y paraît solide et réel, à condition qu'on ne pénètre pas dans les coulisses, c'est-à-dire qu'on n'entreprenne point d'étudier les faits dans les documents authentiques, entassés par morceaux dans les archives, car alors on découvre que ce monument n'est qu'en façade et qu'il ne tient debout qu'à grand renfort de ficelles et de chevilles. Nous connaissons à peu près les effets. Mais dans la plupart des cas, nous ignorons les causes. Si des gens comme de Batz, Frotté, Pelletier, Cadoudal, Pichegru et d'autres, dont nous verrons les silhouettes apparaître en ce récit, avaient pu ou voulu écrire sincèrement, loyalement, sans réticence et sans pause, ce qu'ils savaient et tout ce qu'ils savaient, on peut considérer comme certain que leur déposition modifierait absolument l'histoire officielle qui n'est faite que de ce qu'on connaît, peu de choses, et naturellement pas de ce qu'on ignore, presque tout. Il se produit pour les événements contemporains que nous comptent chaque jour les gazettes un phénomène particulier. Les faits naissent quotidiennement, démesurément grossis d'abord. On soupçonne les dessous ténébreux, on flaire de gigantesques intrigues, on permet des révélations écrasantes. Puis, au fur et à mesure de l'éloignement, il se produit une sorte de tassement. La perspective fait son office, les choses prennent une certaine forme avec laquelle on se familiarise, qu'on admet peu à peu, les uns par intérêt, les autres par lassitude, par besoin de nouveauté, et les faits finissent par être définitivement classés dans la mémoire de tous, sous un aspect si incomplet qu'ils diffèrent tout à fait de la vérité. L'histoire les recueille en cet état et les expose dans son froid musée. Je ne désespère pas qu'au beau jour, si l'on parvient à lire toutes les pièces authentiques, à recueillir tous les vieux papiers qui dorment dans la poussière des greniers de province, à tout compulser, fouiller, classer, on prouvera que ce musée n'est qu'une galerie de trucages et que tout est à refaire. Mais peut-être va-t-on penser que dans ce modeste livre, nous avons si grosse ambition. Il n'en est rien, et ces réflexions ne nous sont inspirées que par le dépit de nous être heurtés, tout le long de notre travail, à l'inconnu et au mystérieux. Nous espérions, en l'entreprenant, tracer le tableau d'une époque. Nous n'avons réussi à écrire que l'histoire d'un homme. Il est vrai que cet homme s'est pendant toute sa vie trouvé en lutte avec les policiers de la Convention, du Directoire, du Consulat, de l'Empire. Son existence a été si mouvementée, si périlleuse, si remplie d'intrigues, qu'un illustre romancier en a fait le sujet d'un de ses contes les plus attachants. Et si nous n'avons pas la prétention d'égaler en intérêt le roman dont cet homme est le héros, Nous croyons cependant qu'on aura plaisir à connaître les aventures, sinon complètes, du moins vraies, auxquelles il fut mêlé. Fin du premier chapitre.